Magazine.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magazine.
Ça va aller, ça va passer.
Je ne vais pas y arriver.
Le magazine du collège André Gide.
Bonjour et bienvenue pour Magagide, le magazine du collège André Gide. Nous sommes le jeudi 28 avril. Bonjour déjà. Toute cette émission est enregistrée et mise en podcast sur radar.arensor.com. Vous pourrez le retrouver en podcast ce soir. C'est en direct actuellement, donc si un jour vous êtes absent au collège, vous pourrez l'écouter quand même en direct depuis chez vous. Et puis, nous allons faire le tour de table avec les noms des élèves participants et les thèmes qu'ils ont écrits. Nous allons commencer par Enzo et la revue de presse. Ensuite, nous aurons Dylan et le cerf-volant, suivi d'Alena et Manon pour Encanto, le nouveau film Disney. Enfin, le nouveau, il est sorti quand même il y a assez longtemps, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a Kélia et Léa sur les jours fériés. Ensuite, nous enchaînerons avec Gwenaël et Sayen sur la fête du travail. Puis, nous finirons avec Brandon et la vente de cookies dédiée à l'Ukraine.
Magagide
sur Radar.
Alors, je vais vous parler donc de toute l'actualité qui s'est passée pendant les vacances. Comme vous savez, il n'y a pas eu d'émission pendant les vacances. Donc, je vais essayer de résumer les gros titres qui ont fait l'actualité durant cette période. Alors, tout d'abord, la Chine a fait le choix, début avril, de reconfiner sa population avec des règles très strictes et une politique zéro Covid. Des villes entières, comme Shanghai, sont totalement fermées et les habitants à court de nourriture hurlent leur mécontentement face à un confinement qui n'en finit plus. Et Pékin, pour ne pas subir le même sort, étend sa campagne de dépistage à tous les quartiers de la ville après avoir fermé tous les lieux touristiques et centres de loisirs contre la flambée de Covid-19 dans le pays. Ainsi, les expatriés français en Chine ont été interdits d'aller voter pour les élections présidentielles ce dimanche car les bureaux de vote étaient fermés. Et en parlant des élections présidentielles, je pense que vous savez qui a été élu, Emmanuel Macron, candidat de La République En Marche, a obtenu 58,2% contre Marine Le Pen, candidat du Rassemblement National, a obtenu 41,8% et 28,2% d'abstention. En 2017, l'écart était plus grand. Emmanuel Macron avait été élu avec 66,1% et Marine Le Pen avait obtenu 33,9% contre seulement 25,44% d'abstention. Un écart considérable quand même. D'autres élections sont à venir, les élections législatives, dont le premier tour se tiendra le 12 juin et le second tour le 19 juin. Cette élection servira à élire les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour une durée de 5 ans. Voilà tout ce que j'ai résumé dans l'actualité. Alors, j'ai pas parlé de l'Ukraine parce qu'on en entend assez parler comme ça pour ne pas plus vous déprimer. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire sur l'actualité.
Eh ben, merci Enzo. Désolé pour ce blanc. Le micro était coupé, mais c'est pas grave. C'est des petites erreurs comme ça. Voilà,
c'est
faut s'habituer.
C'est de ma faute. Je m'avais trompé dans les boutons.
Merci Enzo de nous avoir fait la revue de presse des vacances. Est-ce qu'il y avait des actus que vous venez d'apprendre autour de la table?
Peut-être des actus bon. qui ont pas été dites.
Ouais, en parlant de ça, il y a un festival de cerf-volant à Saint-Juin le 30 avril, le week-end du 30 avril. Donc il y a énormément
même
de cerf-volant.
Aussi. Même dimanche. Dimanche aussi, il y a un truc.
Ouais, c'est ça, c'est tout le week-end. Mais il y aura énormément de gros cerfs-volants qui vont à 25 mètres de haut environ. J'y suis déjà allée, franchement, c'est incroyable, c'est merveilleux. Bon, en tout cas, voilà. En parlant de cerfs-volants, on va accueillir Dylan avec sa séquence sur les cerfs-volants.
Magagide
sur Radar.
Le cerf-volant. Bonjour à tous, je vais vous parler du cerf-volant. Je veux vous parler du cerf-volant car avec mon tonton Patrice, nous faisons du cerf-volant. Voilà, je fais des loopings, des figures, des virages avec mes 5 cerfs-volants. Pour pouvoir faire du cerf-volant, il faut 3 conditions. Du vent assez fort mais pas trop, sinon le cerf-volant se casse. Du soleil, un grand espace comme un champ ou la plage. Sinon, le cerf-volant va s'accrocher dans un arbre.
Le cerf-volant est apparu en Asie il y a environ 2500 ans. Il fait son apparition dès la fin du XIIe siècle chez nous. Ce sont les grands navigateurs tels que Marco Polo et les commerçants qui l'ont ramené de leur voyage en Asie. Surtout, le cerf-volant a joué un grand rôle dans l'histoire de l'aviation. Les inventeurs s'en sont beaucoup servis pour leurs études sur le planeur et les ailes.
Eh bah, merci en tout cas Dylan et Enzo pour votre séquence. Bon, je vais appeler ça séquence, j'ai oublié le mot, voilà. C'est quelques oubliés comme ça à la radio, bon voilà. Faudra s'y faire entre les bugs techniques, les trous de mémoire, bon, voilà. Mais vraiment, quand on fait du cerf-volant, qu'on soit enfant, ado, adulte ou même senior, on s'en fout, on retombe en enfance et tout. Et puis même, il y a plein de choses qu'on peut retomber en enfance, par exemple faire des batailles de boules de neige quand il neige, voyons. Regarder des films Disney, tiens, en parlant d'Alena et Manon qui parlent de Encanto, manger, bah je peux rentrer. tout ce qu'on avait à dire sur le cerf-volant, hein. Donc maintenant, bah, place à Alena et Manon sur Encanto.
Magazine.
Sur Radar.
Donc on va vous parler de Encanto. Donc on commence par un petit résumé. Les Madrigals sont une famille extraordinaire qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, dans un endroit appelé l'Encanto. La magie de l'Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique.
Chaque enfant, sauf Mirabelle. Cependant, elle pourrait bientôt être le dernier espoir des Madrigals, lorsqu'elle découvre la magie entourant l'Encanto est maintenant en danger, ainsi que leur maison La Casita.
Le film est sorti le 24 novembre 2021, réalisé par Byron Howard, Jared Bush et Charisse Castro-Schmidt. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il a le même réalisateur que Coco.
Encanto, la fantastique famille Madrigal, est un long métrage d'animation et le 60e classique des studios Disney.
Les chansons d'Encanto. Cela fait plusieurs semaines que Don't Wake Me About Bruno, ne parlons pas de Bruno en français, est la plus célèbre du dessin animé.
Madame Scalia apprend à toutes ses classes la chanson « Ne parlons pas de Bruno ».
On donne notre avis.
Un dessin animé magique, fantastique, et si je le notais, ça serait 10 sur 10. Top.
Le film est top. Il est divertissant et très fantastique.
Ce dessin animé est, comme la plupart des films Disney, rempli de musique.
Sous les apparences, que sais-je faire d'autre ? La famille Madrigal et « Ne parlons pas de Bruno » Dos Oruitas. Origitas. C'est bon.
Eh ben merci Alena et Manon pour cette séquence sur Encanto. Est-ce que ici autour de la table, il y a des gens qui l'ont vu à part du coup Manon et Alena, parce que je pense s'ils ont fait une rédac sur ça, faut un minimum le voir. Donc je sais pas, il y a des gens qui l'ont vu ?
Oui, moi.
Oui, moi aussi.
Ah, déjà il y a Kélia, Dylan et Enzo qui l'ont vu. Bon.
On a appris ça aussi à la musique aussi.
Ah oui, bah oui, du coup avec Madame Scalia,
oui.
Ouais.
Oui.
Donc c'est ça. Donc tous ceux qui ont Madame Scalia, je pense ils l'ont. Et Monsieur Lévesque, je sais pas. Enfin, nous déjà non. Pour vous dire, Madame Scalia et Monsieur Lévesque, c'est les professeurs de musique du collège André Gide où la radio se passe. Et du coup, personne veut donner son avis sur les gens qu'ont vu le film, genre comme Alena et Manon, ils ont fait.
Bah il est bien. Il est bien.
La note ?
9 sur 10, je dirais. Il est pas mal, en vrai.
Moi, je donnerais la même note que Kélia, parce que je trouve il est bien, mais comme tous les films Disney, il y a trop de musique. Voilà.
Ouais. Moi, je mets 9 sur 10, plus un 8. Ça fait... Bon. Je vais passer à la suite.
Merci en tout cas pour ces notes. Là, il n'y a pas trop d'enchaînement, mais on va passer directement à Kélia et Léa sur les jours fériés. C'est parti.
Magazine.
Sur Radar.
Donc, cette année, il y a 12 jours fériés.
On a le samedi 1er janvier qui est le jour de l'an. Le jour de l'an, 1er janvier, est le premier jour de l'année civile. Il a été déclaré jour férié le 23 mars 1810 par le Conseil d'État pour consacrer une pratique plus populaire que religieuse.
Il y a aussi Pâques, c'est le dimanche 17 avril. Pâques, c'est le jour où se déroule la traditionnelle chasse aux œufs.
Le lundi 18 avril, le lundi de Pâques, en théorie rien de spécial. Pour comprendre l'origine de Pâques férié, il faut remonter le temps au Moyen-Âge. C'était à cette époque que les 8 jours suivants après le dimanche de Pâques étaient fériés. Alors ces 8 jours ont été baptisés octave de Pâques.
La fête du travail le dimanche 1er mai. Gwenaëlle va vous en parler juste après. La fête nationale du 8 mai. Le 8 mai fait référence au 8 mai 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour-là, les Alliés remportent la guerre et l'Allemagne nazie capitule. Le 8 mai 1945, à 15h, les cloches se mettent à sonner dans tout le pays.
L'Ascension, le jeudi 26 mai. Pour les chrétiens, la fête de l'Ascension fait donc référence à l'élévation du Christ au ciel, qui symbolise la vie éternelle. Selon la Bible, Jésus mort et ressuscité s'est élevé 40 jours après Pâques et a disparu sous les yeux des apôtres.
Lundi 6 juin, le lundi de Pentecôte. Elle commémore la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres. Elle est fêtée pendant 2 jours, le jour de la Pentecôte, un dimanche, et le lundi de Pentecôte, qui est par conséquent férié. Sa célébration est attestée depuis le 6e siècle.
Le jeudi 14 juillet, la fête nationale du 14 juillet. La loi faisant du 14 juillet une journée de fête nationale annuelle a été promulguée le 6 juillet 1880. Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c'est dans les faits, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle.
L'Assomption, le lundi 15 août. En France, le 15 août est férié depuis le règne de Louis XIII au XVIIe siècle. Le roi l'instaure pour remercier la Vierge de la naissance de son fils Louis XIV.
La Toussaint, le mardi 1er novembre. Instituée par l'Église, la fête de la Toussaint célébrait au départ tous ceux morts en martyrs, puis elle s'est étendue à tous les saints connus et inconnus. En l'an 610, le pape Boniface IV décide d'instaurer la commémoration régulière des saints chaque 13 mai.
L'armistice, le 11 novembre. Le 11 novembre est un jour férié depuis 1922. Ce jour-là, la France commémore la signature de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Chaque année, une cérémonie est organisée devant la tombe du soldat inconnu avec une prise d'armes, un dépôt de gerbes, de fleurs et la sonnerie aux morts.
Le dimanche 25 décembre, le jour de Noël. Le jour de Noël, soit le 25 décembre, est une fête religieuse qui célèbre la naissance du Christ. Le Code du travail reconnaît comme étant un jour férié légal.
Eh ben merci Léa et Kélia pour cette rédaction sur les jours fériés. Fabien, t'as quelque chose à rajouter ?
Ouais, alors moi je voulais déjà vous remercier pour la qualité de votre chronique parce que là ça a été vraiment super complet. Et moi il y a un truc qui me saute aux yeux, aux oreilles en tout cas. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose parmi tous les jours fériés qui ont été égrenés les uns après les autres. Je sais pas, est-ce que vous avez remarqué le petit détail qui tue ?
Non. Moi perso non.
Rien de particulier.
Ils sont presque tous catholiques.
Ouais, et il y a énormément. Alors, on a la Pentecôte, on a la Toussaint, on a l'Assomption, on a. Il y en a un quatrième, je sais plus ce que c'est.
Le jour de Noël. Le jour de Noël.
Le jour de Noël. Et puis, il y avait la Pentecôte aussi, je crois, dans le tas. Et donc, dans un pays laïque, enfin, censé être laïque, comment ça se fait qu'on a encore des jours fériés autour de la religion, autour de. Enfin, voilà, moi, ça me pose question un peu ce genre de truc. Ça vous a pas. Qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de savoir ça, du coup ? Est-ce que vous pratiquez autour ? Est-ce que vous avez une religion ? Autour de cette table
Moi personnellement j'en ai pas, mais après tout ça nous dérange pas d'avoir des jours fériés, comme ça on loupe des cours.
Voilà, c'est, c'est l'avantage aussi hein, c'est le côté pratique du truc.
Je me demande quand même si c'est un peu à cause du corona tout ça.
Ah non, mais alors ça a absolument rien à voir du tout. Et j'en ai un à ma droite qui veut poser une question ou dire quelque chose.
Mais c'est un peu bizarre.
Et c'est un peu bizarre. Donc,
moi, oui. Je trouve ça normal parce qu'on entend parler depuis notre naissance, donc ça ne me choque pas vraiment en fait.
Ouais, ouais, ouais. Alors, mais en même temps, voilà, on n'est plus, assujettis. Enfin, l'Église et l'État ont été séparés il y a plus de 100 ans. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir à fêter des fêtes religieuses. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on fête l'Aïd el-Kibir, il faudrait qu'on fasse le Ramadan, il faudrait qu'on fasse toutes les autres fêtes religieuses de tous les gens qui ont des obédiences différentes. Et on passe notre temps à être en jour férié. Et là, ce serait super. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin voilà, c'était le petit truc qui fait réfléchir. On va pas s'étendre non plus là-dessus, mais et puis on va pas perdre de temps non plus parce qu'à chaque fois on est un petit peu pressé. Mais voilà, c'était la petite remarque que j'avais envie de mettre un peu en avant. Et je laisse la suite se dérouler.
Bah merci Fabien en tout cas pour cette interruption. Du coup les filles, c'est quand la prochaine c'est quand le prochain jour férié?
C'est la fête du travail, c'est le dimanche 1er mai.
D'accord, et en parlant du 1er mai, il y a Gwenaëlle et Sayen qui ont rédigé un article du coup, sur la fête du travail. C'est parti, c'est à vous.
Magazine.
Sur Radar.
La fête du travail est une fête internationale que l'on fête dans plusieurs pays du globe. En France, si le 1er mai est un jour chômé et payé depuis 1947, la fête du travail tire ses origines dans les manifestations des salariés américains qui réclamaient en 1886 la journée de travail de 8 heures. En France, au début du XXe siècle, il devient habituel à l'occasion du 1er mai d'offrir un brin de muguet. Le 23 avril 1919, le Sénat accepte la journée de 8 heures et fait du 1er mai suivant une journée chômée, c'est-à-dire que l'on ne travaille pas mais qu'on est quand même payé. En 1947, le 1er mai devient de droit un jour férié chômé et payé pour tous les salariés sans condition, mais il n'est pas officiellement désigné comme fête du travail. Ce n'est que le 29 avril 1948 qu'est officialisée la dénomination fête du travail. Pour le 1er mai, beaucoup de personnes vendent du muguet dit à la sauvette. Le 1er mai ou alors, on fait tout simplement un grand repas avec toute la famille.
Eh ben, merci Gwenaëlle pour cette rédaction sur la fête du travail. Moi, personnellement, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Mais et vous, autour de la table, il y a des choses que vous venez d'apprendre via cet article?
Moi, pas vraiment, mais par contre, avec mon grand-père, tous les 1er mai, chaque année, on vend du muguet à la sauvette, comme Gwenaëlle elle a dit.
Ah ouais, du coup, si tu veux caler une petite pub... Non, c'est faux. Non, on cale pas de pub à la radio sans être payé. Non, c'est faux. Non, en tout cas, restons dans les actualités. En ce moment, au collège, il y a une vente de cookies. On va laisser Brandon en parler maintenant.
Magazine.
Sur Radar.
Aujourd'hui... Excusez-moi. Aujourd'hui a lieu une vente de biscuits au collège. Le but est de récolter de l'argent pour vont venir en aide aux Ukrainiens. Ces biscuits ont été cuisinés par des élèves du collège à l'atelier cuisine de la SECPA. La vente se fera dans la cour de récré de 13h15 à 14h et à la récré de 5h. 15h, excusez-moi.
Eh bien, merci Brandon pour les informations sur la vente de cookies. Je crois que le paquet de 8 cookies est à 3 euros et le biscuit à l'unité 50 centimes d'euros. Du coup, la vente se fera à la récré du midi, donc c'est-à-dire là maintenant, je crois. Et à la récré de 15h, c'est-à-dire la prochaine. Quoi ? Ah oui, venez nombreux, parce que tous les bénéfices seront reversés à une association pour les Ukrainiens qui sont en guerre depuis fin février, je crois, le 24. Je sais plus trop quoi dire. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous pourrez retrouver toute cette radio sur radar.arancer.com. Ce sera en podcast dès ce soir dans la rubrique Magagide. Je vais faire le tour de table pour tous les remercier. Je remercie Enzo pour sa revue de presse, Dylan sur les cerfs-volants, Alena et Manon pour la rubrique sur Encanto, Kélia et Léa sur les jours fériés, Gwenaël et Sayen pour la fête du travail et Brandon pour les informations sur la vente de cookies à l'Ukraine. Merci à tout le monde, merci à Fabien d'avoir géré la régie et tout. Bon, il y a quelques bugs, mais ça, c'est pas grave, on a quand même réussi.
Il fait ça qu'est-ce qu'il peut.
Oui, on fait tous comme on peut. Voilà. Moi, je fais comme je peux, pas comme on peut, non. Enzo fait comme il peut, Dylan, Alena, Manon, tout le monde.
Bonne journée.
Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous. Et puis, au revoir.
Le nom de l'émission était choisi Magagide.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magagine.
Ça va aller, ça va passer.
Je ne vais pas y arriver. Le magazine du collège André Gide.